la communion, le partage de ce qu'on vit, c'est une façon de louer le Seigneur. Ça ne se fait pas par une prière, ça se fait par la communion. Non. Quelle est l'issue, quelle est la partie finale de la louange? C'est la joie. Et donc, après la communion, normalement, on est content. Donc, ça signifie qu'on a loué. On va le voir ensemble. Je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Alors Isabelle écrit tout de suite ce que je viens de dire, mais là la question c'est de choisir, si être un agneau ou un loup. Non? C'est pas évident. Nous sommes au chapitre 10 de Luc. Premier verset. Je lis. Après cela, le Seigneur choisit 72 autres disciples et les envoya deux par deux devant lui. La traduction littéraire serait devant son visage. Dans toutes les villes et tous les endroits où lui-même devait se rendre. Il leur disait, la moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. En route, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne prenez ni bourse, ni sac, ni chaussures. Après, ça continue. Il est intéressant de remarquer que Luc parle deux fois de mission. C'est le seul évangile qu'il fait. Deux fois. La première fois, c'est les apôtres qui sont envoyés, les 12. Maintenant, il reprend à nouveau l'idée de la mission et ils en envoient 72. Qu'est-ce que cela signifie d'abord? Cela signifie que la mission n'est pas une prérogative des apôtres. Je pourrais dire des prêtres, des missionnaires, des gens qui, on dirait, ont tout quitté pour la famille, les enfants, une famille future, non, pour se mettre au service du royaume de Dieu. Chaque chrétien est appelé à la mission. La mission est essentielle à la vie chrétienne. Chaque chrétien est un missionnaire. Donc les 72, c'est nous. Nous sommes les 72. Chacun de nous est envoyé aux frères. Et donc, c'est précisément la voie de la mission qui réalise notre être chrétien, notre être croyant. C'est la dimension fondamentale de notre vie, car nous sommes êtres de relation. L'amour nous pousse vers l'autre. Sinon, on ne va pas. Vers l'autre, sinon on va vers l'autre par égoïsme, pour dominer, mais alors ce n'est pas une mission, c'est une contre-mission. Et on pourrait aussi dire que la mission est un petit peu le style de la vie chrétienne. Une vie d'ouverture aux autres, d'amour envers les autres, de don, de communion, qui n'exclut personne et qui s'ouvre à tous. Comme Dieu est Père de tout le monde, de chacun, le chrétien reconnaît en chaque personne un frère, une sœur. Cette dimension de la mission est si importante que Luc, après avoir écrit l'Évangile, écrit aussi les Actes des Apôtres. C'est comme une conséquence essentielle du premier livre. Souvent, on parle des Actes des Apôtres comme du cinquième évangile. C'est comme l'évangile commenté par la vie des apôtres. Après cela, le Seigneur choisit 72 autres disciples et les envoya deux par deux devant lui, devant son visage, dans toutes les villes et tous les endroits où lui-même devait se rendre. Jésus venait de se mettre en route vers Jérusalem, donc vers sa mort. La première chose à faire pour partir en mission est de connaître ce visage de Jésus. Luc dit « Jésus endurcit son visage vers Jérusalem ». Qu'est-ce que cela pourrait signifier? C'est comme si Jésus prenait une décision. Et cet endurcissement de miséricorde. Jésus décide avec force qu'il donnera sa vie pour tout le monde. Et donc, la première partie de cette... Qu'est-ce que c'est la mission? C'est d'abord vivre notre baptême. C'est-à-dire s'immerger dans ce visage de miséricorde de Jésus. Mais le texte commence comme ça. Après cela, c'est-à-dire, il s'est passé quelque chose juste avant. Et qu'est-ce qui s'est-il passé? Il s'était passé ça, que trois personnes avaient demandé à Jésus de pouvoir le suivre. Et Jésus pose des conditions. Moi, je ne vais pas commenter ces conditions, mais je vous dis le sens. La première condition, c'est que nous devons être libres de tout intérêt matériel. Luc 9, 57-58. Que nous devons être libres de nos attachements aux personnes. Luc 9, 59-60. Et nous devons être libres de nous-mêmes. Luc 9, 61-62. Les religieux ici présents reconnaîtront en ces trois, dans ces trois conditions les trois vœux. Non, de chasteté, de pauvreté et d'obéissance. Mais là, Jésus ne parle pas pour les religieux. Il faudrait se dire que les religieux, les focolarini, les religieux, les prêtres, à ces temps-là, n'existaient pas encore. Non? Donc, cette phrase, ces conditions, ce ne sont pas des conditions pour des personnes choisies. Ou mieux. Ce sont les conditions... Parce que chaque chrétien est choisi. Il signifie que la mission ne vise pas à posséder des choses, ni à posséder des personnes, et a pour condition de se libérer de son égoïsme. Et donc, connaître le visage de Jésus, aller devant son visage, signifie aussi se placer devant nous-mêmes, devant notre vérité la plus profonde, et laisser grandir notre liberté face aux choses, face aux personnes et face à nous-mêmes. Voilà, par exemple, quelque chose sur lequel il faudrait méditer un peu. Non? Comment je suis face à ces trois choses? Les choses, les personnes, nous-mêmes. Et après, je vais vite. On s'est dit avec Florence qu'on ne parlerait pas plus que 15 minutes chacun. Moi, je suis à 12 là. C'est déjà... Le nombre est 72. Vous avez compris que nous sommes assez passionnés de cette affaire des nombres. Mais en fait, la Bible est pleine d'un sens symbolique, non, des nombres. Mais 72, c'est 6 fois 12. Et là, Isabelle, c'est Robert qui me disait, c'est le nombre de l'homme. Non, c'est pas ça là maintenant. Parce qu'il avait envoyé avant les 12 apôtres. Donc 72 plus 12, ça fait 7 fois 12. Et donc, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que la mission n'est pas quelque chose qui regarde seulement le peuple élu, les apôtres, mais qui regarde tout le monde. La mission, c'est une mission vers l'humanité, qui nous envoie à l'humanité tout entière. Et après, il les envoya deux par deux. C'est quand même un peu bizarre. Pourquoi deux par deux? Alors, les focolarini qui aiment beaucoup la vie communautaire pourrait dire, voilà, on a raison, les missionnaires devraient partir toujours deux par deux. Ils n'ont pas complètement tort, les Focolarini. Parce que si vous devenez des apôtres, vous, c'est-à-dire, ils n'étaient pas des gens avec beaucoup de talent. Paul avait été vraiment une personne avec une culture, mais les apôtres, les premières douze, n'étaient pas grand-chose, non? Et entre eux, les choses ne se passaient pas si bien que ça. Ils se disputaient, non? Qui avait raison? Qui était le plus grand? Qui était le plus petit? Qui voulait être le puissant à côté de Jésus, non? Pierre qui dit, non, juste avant, c'est sympa parce que Jésus passe chez les Samaritains ne l'accueillent pas, et Jacques dit, bon, est-ce que tu veux qu'on appelle le Dieu qui le fasse avec la foudre, qu'on l'envoie à la foudre il n'avait vraiment rien compris. Rien compris. Non. Donc, les disciples n'étaient pas un ensemble de personnes où tout se passait bien. Je pourrais dire. Le Focolare, c'est cinq personnes avec qui je vis. Oh, ce n'est pas les personnes que j'ai choisies. La communauté religieuse où je vis, ce n'est pas les personnes que j'ai choisies. Non? Cela signifie que le sens de notre être ensemble, deux par deux, en mission, ce n'est pas le fait qu'on est d'accord et que tout se passe bien. Mais c'est qu'il y a un lien plus profond. Et ce lien, c'est précisément le visage de Jésus, la présence de Jésus. Donc, véritablement, deux par deux veut dire, vous êtes là parce que il y a quelque chose au milieu de vous, l'amour du Père qui vous rend frère, qui est au fondement de votre mission. Mais pour témoigner quoi ? Pour témoigner qu'on a un Père en commun. Et donc, le fait d'être différent et peut-être de se disputer de temps en temps, c'est, comment dire, la matière de ce témoignage. Ce n'est pas la difficulté, ce n'est pas un empêchement au témoignage, c'est la matière du témoignage. Et après, la moisson est abondante. Qu'est-ce que c'est la moisson? La moisson, c'est l'humanité, tout entière. Et Jésus dit, mais les ouvriers sont peu nombreux. Et là, la tentation, c'est de penser, donc il nous faut des vocations. Là, c'est la tentation. Non? Et donc, les Focolarini, allez, on va chercher d'autres Focolarini. Frère Claude va chercher d'autres frères de Saint-Gabriel. Non? Les Sœurs André, autres sœurs de la Christ Rédempteur. Et ainsi de suite. Non? C'est pas le sens. Ce n'est pas le sens. D'abord, l'humanité, elle est toujours mûre pour vivre en fille de Dieu. Donc, chacun est déjà fils de Dieu. Et donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit se mettre, retroucher les manches? Non. Nous devons prier le Seigneur de la moisson. Prier le Seigneur de l'humanité entière. Qu'il devienne aussi Seigneur, que nous devenions conscients qu'il est vraiment le Seigneur, afin que chacun de nous devienne ouvrier. Donc la première chose à faire, c'est la supplication, la prière incessante, profonde, et prier d'abord pour que toutes mes fausses certitudes soient mises de côté, que je aille au-delà de mon égoïsme, que je aille au-delà de ma volonté de possession des autres ou des choses. Et donc, en fait, là aussi, la mission est d'abord prendre conscience que Jésus a déjà tout fait. Et que nous devons changer de regard. Il ne s'agit pas de porter les autres là où nous sommes parce que nous sommes meilleurs des autres. Non. Et donc, je vous envoie comme des agneaux au milieu de loups. quel est le problème? Le problème est que quand la mission marche, quand tout se passe bien, et peut-être on a plein de vocations, nous, qui étions agneaux, on court le risque de devenir des loups. C'est-à-dire, maintenant, nous avons un pouvoir. Ah, ça marche. On peut s'arrêter, on peut s'asseoir. Eh bien, à partir de là, on peut, comment dire, imposer aux autres notre façon de penser. Vous savez, dans le mouvement des Focolari, qui a eu une grande diffusion, énorme diffusion, dans tout le monde, partout dans le monde. Ce risque a été très fort en certains moments de notre expérience. Non ? Et donc, il fallait profiter. On rentre en politique, on fait... Non ? Pour faire du bien. Et à un moment donné, on s'est rendu compte que ça ne marchait pas. Parce que le royaume de Dieu, ce n'est pas le royaume des loups. C'est le royaume des agneaux, qui reste agneau. Parce qu'être agneau signifie être humble. Et donc, quelles sont les conditions pour la mission? Eh bien, les conditions sont là. Ne prenez ni bourse, ni sac, ni chaussures. Et donc, la condition essentielle, c'est de ne pas faire confiance à rien d'autre qu'au visage du Christ. Bien sûr, il y a Nouvelle Cité, c'est pour témoigner, c'est vrai. Il y a les journaux chrétiens, ça va. Il y a les programmes pastoraux, c'est vrai. On peut faire. Il y a les institutions, c'est tout est vrai. Non ? Mais il est important pour nous d'être conscients que le fondement de la mission, ce n'est pas les moyens qu'on a à disposition pour diffuser la parole de Dieu. Non. Ça, ce n'est pas la seule, le fondement, c'est le visage du Christ. Et c'est pour ça que l'essentiel est la pauvreté. La dernière chose que je vous dis, c'est une chose très franciscaine. Mais en fait, là, Saint François a vraiment, vraiment touché à quelque chose de profondément au cœur du christianisme. Parce que la pauvreté nous oblige à être solidaires. Parce qu'en étant pauvre, il n'y a rien qui nous sépare des autres. Et alors l'amour, la justice, la paix sont possibles. La pauvreté est un grand mystère. C'est le mystère le plus profond de Dieu. Parce que Dieu, lui, il n'a rien. Il donne tout, jusqu'à donner soi-même. Et la possibilité même de la vie est le don. Parce que tout ce qui est là est un don. La vie que nous avons reçue, c'est un don. Je reçois l'air pour respirer. Je reçois les relations avec les autres que je ne peux pas maîtriser. Je reçois les gens que je rencontre. Et donc, nous ne pouvons pas reposer sur un équipement, sur une doctrine, sur une puissance économique, sur un prestige. Ces choses ne valent rien pour la mission. Le Seigneur, d'ailleurs, n'en avait pas. Et il était Dieu. Son seul pouvoir était d'aimer et de donner sa vie.
Son seul pouvoir, c'était d'aimer et de donner sa vie. Alors, que dire pour... Je ne sais pas pour conclure, mais pour... Pour terminer, en lien avec ce que Gianluca vient de dire... Je pense que nous allons dire la même chose de deux manières différentes. Ce matin, je me suis posé la question chemin de communion, chemin de sainteté, et sachant qu'on aurait parlé de la mission, chemin de mission, parce que chemin de communion, c'est le chemin de la mission et c'est le chemin de la sainteté. Qu'ils soient un, afin que le monde croie. Qu'ils soient eux aussi en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. La mission de Jésus est intimement liée à sa communion avec le Père. Jésus, celui qui est envoyé, donc celui qui est en mission, sa mission n'aurait aucun sens, aucun fruit. Nous sommes tous des fruits de cet envoi du Père à la personne de Jésus. N'aurait aucun fruit s'il n'avait pas eu cette union au Père. Et Gianluca a parlé, sans prononcer le mot, il a parlé de courage. Il a parlé du courage de Jésus qui décide de monter à Jérusalem, qui décide de donner sa vie, sans parler du mot. Il a parlé du courage de ne pas prendre avec soi ni besace, ni chaussures, ni argent, ni sécurité pour le lendemain. Et il me semble que dans ce chemin de communion, ce chemin de mission, ce chemin de sainteté, ce qui nous est peut-être demandé aujourd'hui, c'est un acte de courage. Quel courage! Nous faisons tous partie d'une communauté ecclésiale. Que ce soit une communauté religieuse, que ce soit notre paroisse, que ce soit un groupe de prière, que ce soit notre église domestique, notre famille, notre conjoint, faisons tous partie de quelque chose. Je pense, personne n'en est exclu. Alors, ce chemin de communion, est-ce que ce n'est pas là que nous devons commencer à voir le visage de Jésus dans cette communauté, dans ce couple, dans ce groupe paroissial, ce groupe de prière, et là, avoir le courage, il en faut, de commencer à aimer, de commencer à se dire, c'est là le visage de Jésus d'où je prends la force, même si c'est un visage peut-être défiguré, d'où je prends la force pour aller à l'extérieur, pour me lancer dans la mission. Sinon, on le fait pour soi et pas pour Dieu. Sinon, notre mission ne sera pas le fruit du Père en nous, le fruit de l'amour du Père. Et je me disais, peut-être fort, mais cette retraite aura été féconde, si nous avons ce courage de déclarer, peut-être tacitement ou peut-être par un regard, que cette personne avec qui je travaille, peut-être qui n'est pas comme je la voudrais, eh bien, que je veux voir Jésus en elle, je veux dire, aidons-nous, je suis prête à t'aider, je suis prête à perdre peut-être aussi quelque chose auquel je tiens pour qu'on soit ensemble complètement. cet amour réciproque qui contient Dieu. Et c'est Dieu qui, qu'on doit porter, c'est pas nous-mêmes. C'est vrai que nous avons reçu un charisme pour l'unité. Le mouvement des Focolari a reçu un charisme pour l'unité qui est étrangement en affinité avec ce que l'Église du pape François est en train de vivre, cette synodalité. Mais l'unité ne peut être vécue dans une communauté que si chacun revit ce mystère de la Pâque, hein, que nous avons dit, que si chacun est un ressuscité. Donc, courage peut-être, justement, d'étreindre ce visage que je ne voudrais pas, que je voudrais différent, de l'aimer, de croire que là, Dieu me parle, Dieu me rejoint. Parce que c'est seulement ainsi que vraiment nous porterons du fruit dans la mission. En écrivant à de jeunes religieux, Chiara Lubich le dit avec force. N'avez-vous pas compris que l'idéal le plus grand qu'un cœur humain puisse désirer, l'unité, cette unité qui contient Dieu, cette unité qui est comme le Père et le Fils, donc, et cette unité qui est mission. Donc, n'avez-vous pas compris que l'idéal le plus grand qu'un cœur humain puisse désirer l'unité n'est qu'un rêve vague et une chimère si ceux qui veulent cet idéal n'ont pas dans leur cœur comme seul tout. Donc, courage. Jésus abandonné par tous, même par son Père. Voilà un peu ce qui me semblait de comprendre pour moi-même et pour nous, si nous voulons que cette retraite soit féconde, prenons ce chemin de communion, ayons le courage de prendre ce chemin de communion. Et pour terminer, je voudrais vous lire un texte de Chiara qui n'est pas si facile que ça, mais bon, je pense que... Et qui rejoint beaucoup de choses qu'a dit Gianluca. Il a dit que notre mission, c'est l'humanité. Notre mission, c'est l'humanité. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça ne veut rien dire. Ça voudrait rien dire si nous ne savions pas que, en aimant Jésus, en chacun, nous atteignons toute l'humanité. Mais il y a quand même des conditions pour que cet amour puisse parvenir à toute l'humanité. Et j'ai pas, contrairement à Gianluca, j'ai pas laissé de texte pour aujourd'hui. Mais il me semble que ce que je peux nous laisser à chacun, c'est un cœur. C'est mon cœur, c'est ton cœur, c'est notre cœur de chacun. Mais cœur dilaté sur le cœur de Jésus. Un cœur dilaté sur le cœur de Jésus. Ce visage de Jésus qui est derrière nous, mais qui est en nous, qui est devant nous, c'est son cœur, c'est ce cœur dilaté, c'est cet amour, c'est cette lumière, c'est ce dont on a parlé tous les jours, c'est cette vie qu'il veut donner. Alors, je vous lis ce texte de Chiara, ce cœur dilaté. Si on emporte ce cœur dilaté, alors je pense que nous aurons cette mission, hein. Elle écrit en 1949, ce sont des mots très forts. Nous avons besoin de dilater notre cœur aux dimensions du cœur de Jésus. que de travail à faire. Pourtant, c'est l'unique nécessaire. Cela fait, tout est fait. Nous avons besoin d'élater notre cœur aux dimensions du cœur de Jésus. Que de travail à faire. Ça ne se fait pas en un jour, ça ne se fait pas en une seconde. C'est un exercice de toute la vie. Et c'est l'unique nécessaire. Les autres travaux, je ne dis pas que ce sont du temps perdu, mais c'est l'essentiel. Le matin, en se levant, dilater ce cœur aux dimensions du cœur de Jésus. Et tout est fait, tout est fait. Il n'y a plus rien à faire. Elle explique. Il s'agit d'aimer quiconque se trouve à nos côtés, comme Dieu l'aime. On a parlé toute la semaine de cet amour de Dieu. On l'a contemplé. On l'a ressenti en nous-mêmes. On s'est senti unique, aimé, aimé dans toute notre vie. Alors, maintenant que nous savons qu'il nous aime, aimer quiconque se trouve à nos côtés comme Dieu l'aime. Mais, ajoute-t-elle, on ne peut pas choisir, c'est celui qui est à nos côtés. Et on ne peut pas non plus aimer ceux de tous les temps et qui existent en ce monde, les milliards d'hommes et de femmes qui sont en ce monde, mais un après l'autre. Un après l'autre. Et comment un après l'autre? Sans préférence, en quelque sorte, celui avec qui je suis, ce travail que j'accomplis pour quelqu'un qui le trouvera, je me donne tout entier sans penser. Et je n'arrive pas à faire ceci, ça c'est mon défaut, je n'arrive pas à faire cela. Non, je suis là pour cette personne que je veux aimer comme Jésus l'aime. Donc ne pas garder dans mon cœur, si je fais des entretiens ou si j'explique quelque chose, comme une affection pour quelqu'un que j'ai rencontré auparavant. Non, parce que c'est pour Jésus, c'est Jésus que j'aime dans cette personne. S'il me reste dans le cœur quelque chose pour une autre personne, hein, j'aimerais bien pouvoir faire ci, pouvoir faire ça, cette personne-là m'ennuie que je suis en train de rencontrer. Non, alors ça veut dire que j'ai aimé, que j'aime quelqu'un pour moi et pas pour Jésus. Et Chiara dit, ça c'est grave, ça c'est grave. Donc, et puisque nous sommes assujettis au temps, aimons chaque prochain l'un après l'autre, sans garder dans notre cœur des résidus d'affection pour le frère rencontré auparavant. Qu'importe, puisque c'est le même Jésus que nous aimons en tous. S'il reste des traces, cela veut dire que nous avons aimé le frère précédent pour nous ou pour lui, et pas pour Jésus. Et ça, c'est grave. Notre travail le plus important, poursuit Chiara, consiste à maintenir la chasteté de Dieu. C'est-à-dire maintenir dans notre cœur l'amour de Jésus, celui dont Jésus aime. Alors, peut-être qu'elle s'adresse à des gens qui ont consacré leur vie dans la pauvreté, chasteté, obéissance, mais elle dit, pour être pur, il ne faut pas réprimer l'amour, non, allons-y, mais pour Jésus, aimons Jésus, il faut dilater le cœur aux dimensions du cœur de Jésus et aimer tous les hommes. Et là vraiment, on touche à toute l'humanité parce qu'elle va encore plus loin et elle dit, de même qu'une seule hostie suffit, parmi les milliards d'hosties sur la terre, à nous nourrir de Dieu de même. Un seul de nos frères, celui que la volonté de Dieu place à nos côtés, suffit pour entrer en communion avec toute l'humanité, qui est Jésus mystique, la mission pour toute l'humanité. Cet amour pur, cet amour qui va de Jésus en moi à Jésus dans l'autre, c'est ça, au fond, la mission. Et cette communion avec notre frère est le second commandement, celui qui vient immédiatement après l'amour de Dieu et en est l'expression. Communier à toute l'humanité. Avoir du poids, avoir influencé toute l'humanité parce que j'aime de l'amour même de Jésus, ce frère qui est à mes côtés. Parvenir à travers un seul frère à ce que Jésus entre plus profondément dans ce monde. Loin de nous limiter, ce frère nous met en communion avec toute l'humanité. Et comme disait Gianluca, bannissons les autres moyens d'apostolat en quelque sorte. Oui, il faut peut-être des réunions, il faut des organisations, il faut des commissions, il faut faire des plans d'action, mais relativisons-les. Et arrivons-y, si nous devons y participer, avec le cœur dilaté aux dimensions du cœur de Jésus. Bannissons les autres moyens, c'est ça, sans besace, sans argent, sans chaussures, mais avec ce cœur dilaté, qui est notre moyen par excellence. Et dans la résurrection de Rome, Chiara écrit encore, elle dit « Bannissons les autres moyens ». Il faut faire renaître Dieu en nous. Renaître Dieu en nous. Donc, cette union à Dieu, cette prière, ce cœur à cœur avec lui tous les jours, se regarder son visage, faire renaître Dieu en nous, le maintenir vivant, et le déverser comme des flots de vie sur les autres et ressusciter les morts. L'amour pur ressuscite les morts. Et le maintenir vivant parmi nous en nous aimant les uns les autres. Et pour nous aimer, nul besoin de faire du bruit. L'amour veut dire mort à nous-mêmes, vide, vide, vide d'amour. Et la mort est silence et vie en Dieu. Mort à nous-mêmes et vie en Dieu. Or, Dieu est le silence qui parle. C'est lui qui va parler. Merci de votre écoute.